Sermon sur Ésaïe 53. Prononcé le vendredi saint de l'an 1650 par Jean Daillé, pasteur à Charenton. Qui a cru à notre publication? Et à qui a été découvert le bras de l'Éternel? Toutefois, il est monté comme un rejeton devant lui et comme une racine sortant d'une terre qui a soif. Il n'y a en lui ni forme ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a rien en lui à le voir qui fasse que nous le désirions. Il est le méprisé et débouté d'entre les hommes, homme plein de douleur et sachant que c'est de langueur. Et nous avons comme caché notre face loin de lui, tant il était méprisé, et ne l'avons rien estimé. Toutefois, il a porté nos langueurs, et a pris sur lui nos douleurs. Et quant à nous, nous avons estimé que lui étant ainsi frappé, était battu de Dieu et affligé. Or, était-il blessé pour nos forfaits et meurtri pour nos iniquités? L'amende qui nous apporte la paix est sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons guérison. Nous avons été tous errants comme brebis. Nous nous sommes détournés, un chacun en son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun lui demande et il est affligé. Toutefois, il n'a point ouvert sa bouche. Il a été mené à la tuerie comme un agneau et comme une brebis muette devant celui qui la tond. Vois, il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé de la force de l'angoisse et de la condamnation. Mais qui racontera sa durée? Et il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui est advenue pour le forfait de mon peuple. Or, avait-on ordonné son sépulcre avec les méchants? Mais il a été avec le riche en sa mort, car il n'avait point fait d'outrage, et ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Toutefois, l'Éternel l'ayant voulu meurtrir, l'a mis en langueur. Chers frères, la souveraine sagesse de Dieu reluit clairement en la dispensation du salut que son Fils Jésus nous a acquis. Car son incomparable bonté l'ayant ordonné dès le commencement pour rédempteur du genre humain, et ayant résolu ensuite, pour des raisons très importantes, de ne l'envoyer au monde qu'en la plénitude des temps, afin que sa venue et sa doctrine ne nous surprît point. Il a eu le soin pour la sûreté de notre foi de nous prédire tout ce qui lui devait arriver, plusieurs siècles avant l'accomplissement des choses mêmes. Mais, parce que de tous les mystères de sa discipline céleste, il n'y en a point qui choque ou trouble davantage nos sens charnels que l'anéantissement, la mort et la croix de ce divin prince de notre salut. Dieu nous en a très particulièrement et très expressément avertis, ne se trouvant aucune des parties de la doctrine évangélique dont les anciennes écritures contiennent plus de prédictions, d'enseignements et d'éclaircissements que de celles-ci. Je laisse là les figures où il a été représenté. Adam, à qui Dieu ouvrit le côté pour lui former une épouse. L'innocent Abel, mis à mort par la main de son propre frère, et depuis Isaac, offert en sacrifice sur la montagne de Moria pour la bénédiction du monde. Joseph, vendu et comme enterré vif pour nourrir et pour sauver la famille de son père. L'agneau pascal, immolé pour protéger de la mort les maisons arrosées de son sang. Le serpent d'airain, élevé sur le bois pour guérir les morsures du peuple. Samson, écrasant ses ennemis par une mort volontaire. Toutes les victimes propitiatoires, offertes jadis pour le péché sous le tabernacle de Moïse, et tant d'autres en si grand nombre, qu'à peine y a-t-il aucun des types du Messie où sa mort et sa passion ne paraissent, sinon peintes et représentées au vif, au moins dessinées et signifiées en quelque façon. Mais outre ces images, Dieu a voulu encore déclarer cette haute vérité dans ses anciens oracles, avec des paroles si expresses qu'elles rendent inexcusables la brutalité des Juifs et de tous les autres incrédules qui, après la lumière d'un si divin enseignement, se scandalisent encore de l'infirmité de la croix du Seigneur Jésus. Car, pour ne point parler de ce qui s'en lit en Daniel et dans les autres Écritures, que se peut-il voir de plus clair que ce chapitre d'Ésaïe que vous venez d'entendre ? Il touche tellement toutes les circonstances de ce mystère et représente si bien, jusqu'au moindre de ses particularités, qui semblent plutôt raconter des choses passées qu'en prédire qu'il soit encore à venir. Et si l'histoire et le témoignage de l'Antiquité et le consentement des Juifs ne nous assuraient qu'Ésaïe avait écrit ces paroles plus de 700 ans avant leur réalisation, nous le prendrions plutôt pour un évangéliste que pour un prophète, et croirions qu'il aurait suivi et non précédé la mort du Sauveur. C'est ce qui m'a fait choisir cet oracle pour sujet de cette action, parce qu'il est si clair qu'il peut passer pour une histoire, et que sans travailler nos esprits par l'obscurité ordinaire aux prédictions, il nous fournira abondamment toutes les méditations nécessaires pour bien célébrer la mémoire de la passion du Seigneur, qui est précisément le devoir auquel nous sommes maintenant appelés. Je ne m'attacherai pas scrupuleusement à chacune des paroles du prophète, ni à l'ordre où il les a couchées. Pour considérer exactement la beauté et la richesse de tout son discours, et la profondeur de ses pensées, et l'élégance divine de ses expressions, il faudrait beaucoup plus de temps que nous n'en donnons à ses actions. Je vous représenterai seulement les principaux chefs de cette prophétie, et remarquerai brièvement sur chacun ce qui me semblera propre à l'occasion pour laquelle nous sommes ici assemblés. J'estime donc que tout ce texte du prophète se peut rapporter à trois points. Car si vous prenez bien garde, vous verrez que d'abord, il représente l'extrême infirmité et bassesse du Christ, qu'il nous dépeint comme une personne très méprisable en apparence, et qui n'a au dehors aucune des choses qui donnent dans les yeux des hommes et qui excitent leur admiration et gagne leur volonté. Il passe plus outre et nous décrit ensuite ses souffrances et l'opprobre de son supplice et l'ignominie de sa honteuse et douloureuse mort et touche même en deux mots la merveille de sa sépulture, tout autre que ne la promettait le cruel traitement qu'il avait reçu des hommes. Mais vous remarquerez aussi qu'il entrelace très artificieusement dans toute cette description de l'anéantissement du Messie les vraies et justes causes d'un si étrange effet et les raisons qui ont obligé le Seigneur à le souffrir pour nous ôter le scandale que sa croix donne à ceux qui n'en regardent que le dehors seulement, sans considérer les profonds et admirables mystères de la bonté et de l'amour et de la sagesse de Dieu, cachés sous une si triste et si étrange apparence. Je traiterai donc, s'il plaît au Seigneur, séparément et l'un après l'autre, ces trois points que le prophète a mêlés en son discours, et vous parlerai premièrement de l'infirmité apparente du Seigneur, et puis en deuxième lieu de sa passion et de son dernier combat en la croix, et enfin en troisième et dernier lieu de la cause de sa souffrance, rapportant et rassemblant en un ce qui se trouve épars, ça et là, dans le texte du prophète, sur chacun de ces trois articles. Il entre en ce divin discours par une ardente exclamation que la douleur et l'étonnement qu'il conçoit du mépris et de l'incrédulité des hommes envers le Christ et son évangile lui arrachent de la bouche. « Qui a cru, dit-il, à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Car par sa prédication, il entend la publication de l'Évangile, et par le bras du Seigneur, il signifie le grand chef-d'œuvre de notre rédemption, ou la puissance de Dieu, que l'Écriture appelle de manière figurée son bras ou sa main, s'est déployé pour notre salut plus magnifiquement qu'en aucune autre occasion. Saint Jean et saint Paul remarquent expressément que cette prédiction fut accomplie en la prédication de Jésus premièrement, et puis en celle de ses apôtres. Car quelque éclatante que fût la lumière de la vérité qu'ils annonçaient, quelque ravissant que fussent les miracles dont ils l'accompagnaient, il y eut peu de Juifs qui crussent, et même d'entre les gentils, où l'Évangile fut mieux reçu, la multitude des incrédules était incomparablement plus grande que le nombre des croyants. Le Dieu de ce siècle aveuglant les entendements des hommes et empêchant que la gloire de Jésus-Christ ne leur resplendît. Le prophète, prévoyant leur dureté dans la clarté de l'esprit qui le conduisait, s'en étonne et s'en plaint, en s'écriant « Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été découvert ?» Et parce que les uns et les autres se sont offensés de l'infirmité et de la croix de Christ, qui a été, comme dit l'apôtre, scandale aux Juifs, et folie aux Grecs. Le prophète, pour rendre leur rébellion inexcusable, leur lève ce prétexte, prédisant que telle serait la condition du Christ en découvrant la divine puissance de sa croix à sauver tous ceux qui croient en lui. C'est ce qu'il faut dans la suite de ce chapitre jusqu'à la fin. Et quant à l'infirmité et bassesse du Messie selon la chair, il la décrit en ces mots. « Il est, dit-il, monté comme un rejeton devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, et comme une racine qui sort d'une terre qui a soif. » C'est le style de l'Écriture de comparer les hommes à des plantes et de représenter leurs conditions et leurs qualités avec cette image. Car elle exprime leur prospérité et leur bonheur avec la verdure et le feuillage agréable d'un bel arbre. « J'ai vu le méchant, dit le psalmiste, terrible et verdoyant, comme le laurier. » Et ailleurs, parlant d'un homme de bien et craignant Dieu, « Il sera, dit-il, comme un arbre planté près des ruisseaux des eaux courantes, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. » Et vous savez tout le songe de Nabucodonosor, où la gloire et la puissance de ce prince fut figurée par un grand arbre planté au milieu de la terre, fort et haut, élevant sa cime jusque aux cieux et étendant ses branches au loin et au large. D'où vient qu'Ésaïe, ailleurs, dénonçant les jugements de Dieu contre l'orgueil des grands de ce monde, dit qu'il y a un jour assigné de par lui contre tous les cèdres du Liban, haut et élevé, et contre tous les chênes de Bazan. Semblablement, la bassesse et l'adversité des hommes est représentée à l'opposé sous l'image de quelques petits arbres, bas et faibles, nus et stériles. Il sera, dit Jérémie, comme la bruyère dans une lande. C'est ainsi qu'en use le prophète en ce lieu, comparant le Messie à une petite plante, née dans le sable, d'un fond sec et altéré, se poussant à peine hors de la terre, et qui n'a ni verdure, ni gaieté, ni aucune des beautés recommandables en un arbre. Il veut dire que le Messie naîtra d'un bas lieu, et que les commencements seront faibles et méprisables selon la chair. Et il s'en explique bien clairement quand il ajoute « Il n'y a en lui ni forme ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a rien en lui à le voir qui fasse que nous le désirions. Il est le méprisé et débouté d'entre les hommes, homme plein de douleur et sachant que c'est de langueur. Et nous avons comme caché notre face loin de lui, tant il était méprisé, et ne l'avons rien estimé. » Premièrement, il le dépouille de toute forme et apparence extérieure, c'est-à-dire de toutes les grandes qualités qui sont estimées dans le monde, comme est la noblesse, la puissance, les richesses, la valeur et la force, et le courage guerrier, l'adresse, la finesse et la prudence dans les affaires, l'éloquence et la hautesse du langage, et semble autre partie, rare et extraordinaire, qui font désirer et rechercher l'amitié de ceux qui les possèdent, qui leur gagnent les cœurs des peuples et leur acquièrent de la réputation, du crédit et de la suite dans le monde. Il dit que le Christ, étant destitué de tous ses avantages mondains, sera méprisé et débouté d'entre les hommes. C'est la nécessaire suite de l'infirmité et bassesse qu'il vient de représenter. Car les hommes, n'estimant naturellement que cette forme et apparence extérieure, ce n'est pas merveille qu'ils ne fassent nul état des personnes qui en sont destituées. Il l'assujettit, puis après, aux malheurs et aux souffrances qui accompagnent la vie des plus misérables, disant que c'est un homme plein de douleur, et sachant que c'est que de langueur. C'est-à-dire un homme trempant continuellement dans la pauvreté et dans la misère, et essuyant tous les jours les accidents estimés les plus fâcheux dans la vie humaine. Une si triste apparence ne pouvait produire autre chose que ce qu'ajoute le prophète, parlant en la personne de ceux de sa nation. Nous avons comme caché notre face loin de lui, c'est-à-dire qu'ils en ont eu honte. Bien loin de le reconnaître pour leur roi, ils l'ont désavoué pour leurs citoyens et ont renoncé à son nom, le rejetant comme un homme de néant, et l'opprobre et le mépris du monde. Il n'est pas besoin que je m'entende à vous expliquer comment cet oracle a été ponctuellement accompli à notre Jésus. Vous voyez assez de vous-même que cette description est son vrai portrait. Telle fut précisément sa naissance et sa vie, et sa condition, et toute sa conversation durant les jours de sa chair. Car bien que Jésus fût le Fils unique du Père, sa parole et sa sagesse, et qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de sa déité, bien qu'il fût en forme de Dieu, et ne réputa point rapine d'être égal de Dieu, et bien que cette nature humaine qu'il avait prise à soi fut elle-même au fond le plus précieux et le plus glorieux récipient de la bonté et puissance de Dieu, pleine d'une sainteté, d'une sagesse et d'une bonté inestimables. Le miracle du ciel, le trésor et la bénédiction de la terre. Toutefois, à le regarder simplement au dehors, avec des yeux charnels, comme faisaient les Juifs, on ne découvrait en lui aucune de ses qualités célestes. On n'y rencontrait que cette forme et cette apparence que le prophète nous a ici décrites. Et c'est ce que l'apôtre saint Paul a excellemment exprimé quand il dit, parlant de cet anéantissement du Seigneur Jésus, qu'il a pris la forme d'un serviteur ou d'un esclave, ayant été fait à la semblance des hommes et étant trouvé en figure comme un homme, c'est-à-dire comme un homme du commun de la plus basse lie du peuple. Car premièrement, bien qu'il fût le saint des saints, le juste, ou pour mieux dire, la justice et l'innocence même, il est néanmoins paru en forme de chair de péché, comme dit saint Paul, c'est-à-dire dans une chair sujette à toutes les infirmités que le péché a attirées sur notre nature, à la faim, à la soif, au travail, à la lassitude, à la douleur, aux larmes, aux angoisses et aux détresses, aux injures, aux outrages, soit des éléments et des saisons, soit des hommes et des animaux, et enfin à la mort, tout ainsi que s'il eût été coupable de péché aussi bien que les autres hommes. À quoi il faut encore ajouter l'exacte et ponctuelle sujétion qu'on lui voyait rendre à la fois cérémonielle, portant sa circoncision en son corps, chômant ses sabbats, célébrant la Pâque et les autres fêtes, recevant semblablement le baptême de Jean et vivant enfin comme s'il n'eût eu aucun avantage sur les autres Juifs, mais eût été véritablement sujet aussi bien qu'eux au joug de Moïse et à son alliance servile. Et quant à ses qualités particulières qui relèvent les grands au-dessus du genre humain, on n'en voyait paraître aucune en lui. Il était né dans une petite ville, ou pour mieux dire dans une bourgade, d'une pauvre fille qui, bien qu'issue du sang de David, était néanmoins réduite à une si basse condition qu'elle avait épousé un charpentier. Il était né dans une étable et fut nourri à Nazareth dans la maison de ces pauvres gens, tenus pour le fils d'un charpentier, lui obéissant et travaillant de son métier. Et quand il commença à exercer sa charge, il le fit sans l'éclat et sans faste aucune mondaine, destitué de tout moyen humain jusque-là, qu'il n'avait pas où reposer son chef, allant çà et là à pied, prêchant le plus souvent dans les bourgs et dans les villages, dans les déserts, sur une montagne, dans une barque, sur le rivage d'un lac, sans phare et sans éclat, avec une extrême simplicité et un langage bas et populaire. Suivi de peu de disciples, la plupart pauvres pécheurs, exposés aux embûches de ses ennemis, sans armes, sans force, sans aucun appui mondain, outragé, injurié, lapidé, persécuté, maudit et excommunié par tous les principaux de sa nation, méprisé et peu apprécié de ses propres parents selon sa chair, et passant ainsi toute sa vie sur la terre jusqu'à ce qu'abandonné des siens et trahi par l'un d'eux, il fut enfin pris et condamné et exécuté à la mort ignominieuse de la croix. Et c'est le second point que le prophète prédit en ce texte. Il dit premièrement, en général, qu'il a été frappé, battu, blessé et meurtri. Ce fut le commencement de cet abominable jugement où il fut condamné à la mort ignominieuse de la croix. Car vous savez par l'histoire de l'Évangile que la bande meurtrière des mercenaires des Juifs, guidée par le traître Judas, vint avec armes et bâtons contre cet innocent agneau, comme contre un brigand. Et, l'ayant trouvé dans le jardin des olives, priant et se préparant à ce grand combat, le saisit et l'emmena lié avec violence chez le souverain pontife, où, étant présenté à l'assemblée des sacrificateurs et des anciens, il souffrit de ces barbares et de leurs insolents serviteurs tout ce qui se peut imaginer d'indignité. Ils lui donnèrent des coups de verge, ils lui crachèrent au visage, ils le giflèrent et le frappèrent par moquerie. De ce sanguinaire tribunal, il fut traduit devant celui de Pilate, homme romain, lieutenant de l'empereur et gouverneur du pays, qui, voyant bien son innocence, tâcha de le délivrer, mais succombant enfin sous les séditieuses clameurs des Juifs, l'abandonna à leur rage, aimant mieux violer sa propre conscience que mécontenter ce peuple furieux. Alors Jésus fut fouetté publiquement, et le roi de gloire fut traité comme un larron ou un esclave. Encore l'horreur de cet outrage ne put-elle assouvir la cruauté des soldats de Pilate. Ces insolents, par dérision, vêtirent le Seigneur de pourpre et lui mirent un roseau en la main au lieu d'un sceptre, et sur la tête une couronne d'épines, et après en avoir pris leur passe-temps, lui donnaient des coups de canne et lui crachèrent au visage. Ce furent les préparatifs de son supplice, que le prophète a ici clairement signifié, comme vous voyez, en disant qu'il fut frappé, battu, blessé et meurtri. Mais il touche aussi quelques-unes des particularités de sa passion plus expressément, comme premièrement son admirable douceur et patience au milieu de tant de souffrances si cruelles. Chacun lui demande, dit-il, et il est affligé et oppressé. Toutefois, il n'a point ouvert sa bouche. Voyez la procédure que tinrent contre lui Caïphe et Pilate. Divers faux témoins l'accusèrent, l'un d'une chose et l'autre d'une autre. Caïphe le presse de répondre, et Pilate, depuis, en fit autant. Jésus, attaqué de tant d'endroits, chargé de crimes évidemment faux et sans aucune apparence, interrogé et menacé par ses juges, souffre tout sans dire mot, et laissant agir la fureur et l'iniquité de ses ennemis, demeure constamment dans un doux et paisible silence, sans opposer aux calomnies et à la passion de ses enragés une seule parole de cette bouche sacrée dont la voix avait souvent calmé l'orage de la mer et apaisé la violence des vents. Le prophète, comme ravi de cette divine patience de son maître, y insiste et nous la représente sous l'image d'un agneau souffrant innocemment et patiemment la mort au pied de l'autel où il est immolé. Et à cette comparaison, il en ajoute encore une autre, d'une brebis qui se laisse tondre sans cri et sans résistance aucune. Il a, dit-il, été mené à la tuerie comme un agneau et comme une brebis muette devant celui qui la tond, voire il n'a point ouvert la bouche. C'est là, sans point de doute, la patience de notre Jésus, mes frères. Il n'y en eut jamais de pareil à la sienne. Et bien que celle de ces martyrs ait souvent ravi leur propre bourreau, toutefois, jamais le monde n'en vit une si soumise et si entière que celle du Seigneur. Aussi est-il clair que ces paroles du prophète ne conviennent proprement et en toute leur étendue qu'à elles seules, et non à aucune autre. Après son humilité et sa patience, le prophète touche sa condamnation et son supplice en ces mots. Il a été enlevé de la force de l'angoisse ou de l'oppression et de la condamnation ou du jugement. Le mot d'oppression qu'il ajoute à celui de jugement montre quelle a été la condamnation du Seigneur, à savoir que ça a été un jugement non juste et équitable et conforme aux lois, mais violent et injuste. Un brigandage et un assassinat plutôt qu'un jugement où l'innocent a été indignement opprimé par la calomnie des Juifs et par l'iniquité et la lâcheté de Pilate, où la fureur de la passion a triomphé du droit et de l'autorité des lois. Et bien que ce qui est dit ici, qu'il a été enlevé, se puisse simplement prendre pour dire que le Christ opprimé par la violence de cet injuste et abominable jugement fut emmené au supplice, cette façon de parler étant assez souvent employée lorsqu'il s'agit d'un criminel que l'on traîne au supplice. Toutefois, j'estime que ce mot a en cet endroit un sens plus profond et qu'il signifie particulièrement et précisément la sorte ou la forme du supplice que le Seigneur a souffert, à savoir celui de la croix, où le condamné, comme vous le savez, était élevé en haut sur un bois planté en terre, ce qui avait déjà été figuré par l'illustre type du serpent d'airain que Moïse éleva sur un bois dans le désert. C'est là, à mon avis, que regarde ici Ésaïe, quand il dit que le Christ sera élevé, c'est-à-dire qui sera crucifié. Et notre Seigneur use lui-même de ce mot en même sens lorsqu'ayant parlé du serpent d'airain, il ajoute « Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé ?» Et ailleurs encore « Si je suis, dit-il, enlevé de la terre, je les tirerai tous à moi. » Où l'Évangile nous avertit expressément qu'il signifiait par ses paroles quel genre de mort il devait souffrir, à savoir celle de la croix. Mais le prophète ne nous enseignait pas seulement que le Christ sera enlevé, c'est-à-dire mis en croix. Il prédit aussi, en troisième lieu, et cela bien expressément, qu'il souffrira la mort. C'est ce qu'il montre clairement quand il dit qu'il sera mené à la tuerie comme un agneau. C'est-à-dire qu'on le mettra à mort comme un agneau immolé en sacrifice. Et quand il ajoute un peu après qu'il sera retranché de la terre des vivants conformément à ce que Daniel dit depuis pour signifier la même chose, que le Christ sera retranché. Mais Ésaïe parle encore expressément de sa mort quand il dit qu'il a été avec le riche en sa mort, et de nouveau au verset 10e, qu'il mettra son âme, c'est-à-dire qu'il se livrera lui-même, en oblation pour le péché. Et enfin au dernier verset, qu'il répandra son âme à la mort. Ce que je remarque notamment pour confondre l'impertinence des Juifs et de quelques judaïsants, qui n'ont point de honte de rapporter ce chapitre, les uns à Ézéchias, les autres à Jérémie. Car outre que ces extravagantes gloses heurtent presque toutes les autres paroles du prophète, il est clair qu'elles sont particulièrement incompatibles avec celles-ci qui montrent que l'affliction et l'oppression de celui qui est décrit se terminera en une mort violente. Ce qui n'a point eu de lieu en Ézéchias ni en Jérémie, et ne se peut vérifier dans toutes ces circonstances en nul autre qu'en notre Seigneur Jésus. Et ici, vous devez soigneusement remarquer la belle opposition que fait le prophète pour notre consolation entre la mort de Christ et sa vie, ferme et perdurable à jamais. Car comme s'il eût craint que ce qu'il a dit de sa passion n'abattît nos espérances et ne nous fît imaginer qu'il devait périr sans ressources dans le grand anéantissement qu'il nous en a représenté, après avoir dit qu'il sera enlevé par la force de l'oppression et du jugement il ajoute immédiatement « Mais qui racontera sa durée après qu'il aura été retranché de la terre des vivants ?» Car les paroles de l'original se peuvent et se doivent, à mon avis, ainsi expliquer. Il nous montre, par ces mots, que la mort à laquelle il sera livré ne l'engloutira pas tellement qu'après l'avoir soufferte, il ne soit encore rétabli en vie, voire en une vie immortelle, et dont nul ne saurait dire ou représenter la durée, parce qu'elle n'aura jamais de fin. Et c'est ce qu'il exprime encore plus expressément dans le verset 10e, en ces mots, « Après qu'il aura mis son âme en oblation pour le péché, il prolongera ses jours et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. » Où vous voyez qui fait clairement vivre le Christ en une grande et triomphante prospérité. Après avoir été immolé et avoir payé de son sang et de sa mort les iniquités de son peuple, ce qui a été magnifiquement accompli en notre Jésus ressuscité et exalté après sa mort en une souveraine gloire, il n'a jamais eu lieu en aucun autre. Enfin, le prophète prédit encore une chose singulière et particulièrement remarquable en la passion du Messie, que bien que l'horreur de son supplice et des faux crimes sous prétexte desquels il avait été condamné et la rage de ses ennemis sembla assurément présager que son corps serait maltraité après sa mort, et que dans ce général abandonnement, il ne se trouverait personne qui osa ou qui entreprit de l'ensevelir et enterrer honorablement. Il en arriverait pourtant autrement. La providence de Dieu, pour témoignage de son innocence, devait alors tellement disposer les choses que quelqu'un de ces riches et de ces grands, qui l'avait ou méconnu ou méprisé durant sa vie, le recevrait avec lui et comme en sa compagnie après sa mort, enterrant son corps dans son propre sépulcre. Car c'est là, comme j'estime, le vrai sens, le sens naturel des paroles suivantes. L'on avait ordonné son sépulcre avec les méchants. Mais il a été avec le riche en sa mort, car il n'avait point fait d'outrage et ne s'était point trouvé de fraude en sa bouche. Aussi voyez-vous dans l'Évangile que cette particularité est expressément remarquée en l'histoire de la passion du Seigneur Jésus, que nonobstant toute la furie des Juifs et l'extrême opprobre où ils avaient mis cet innocent crucifié, il se trouva néanmoins un homme riche et honorable et de grande qualité en cette malheureuse nation, nommé Joseph d'Arimathée, qui eut le courage de se présenter à Pilate et de lui demander le corps de Jésus, et qui, l'ayant obtenu, l'enveloppa honnêtement et proprement dans un suaire, à la façon des Juifs, et le mit dans son sépulcre neuf qu'il avait taillé dans un roc. L'action de ce saint homme fut un désaveu public de l'inique sentence des Juifs. Enterrant ainsi Jésus, il renonce hautement au jugement de ses compagnons, car il était aussi conseiller, l'estimant digne d'être enseveli et inhumé avec honneur. Il prononce clairement qu'il n'avait pas mérité de mourir dans l'ignominie. Aussi est-ce le troisième point dans le prophète nous avertit fort diligemment, nous découvrant divinement les vraies causes de l'opprobre et de la mort du Messie, afin que son anéantissement ne nous donne point de scandale. Quant aux Juifs, il prédit qu'ils en feront un très mauvais et très déraisonnable jugement. Il le représente en ces mots qu'il prononce en leur personne. « Quant à nous, disent-ils, nous avons estimé que lui étant ainsi frappé, était battu de Dieu et affligé. » Ils n'entendent pas simplement que le Christ souffrait cette horrible ignominie par la providence et permission de Dieu et par son conseil ordonné devant les siècles. Car cette pensée-là, s'ils en fussent demeurés là, eût été vrai et raisonnable. Mais ils veulent dire qu'il était ainsi puni par la main de Dieu à cause de ses péchés, s'imaginant qu'il ne l'eût pas traité de la sorte s'il ne l'eût haï pour quelque grand crime dont il l'estimait coupable. Et à la vérité, c'est une erreur où les hommes tombent souvent, jugeant des personnes par les apparences de leur fortune, sans considérer la profondeur des abîmes de la providence de Dieu, qui laisse quelquefois tomber les plus innocents et les plus vertueux de ses enfants, et ceux qu'il aime et chérit le plus, en de grandes disgrâces et en des afflictions épouvantables. Le monde, sans penser à cela, condamne comme coupables tous ceux qu'il voit affligés, et prend la souffrance pour un argument infaillible de la haine de Dieu et du crime des condamnés. Ainsi lisons-nous dans les Actes que ceux de Malte, voyant saint Paul après le malheur du naufrage dont il était à peine échappé, attaqué d'une vipère qui lui attaque la main, conclurent aussitôt que c'était un meurtrier, c'est-à-dire un scélérat que la vengeance de Dieu poursuivait par mer et par terre. Et quant à ces barbares qui n'avaient nulle autre connaissance de Paul ni de sa vie, leur erreur était pardonnable s'ils en faisaient un si mauvais jugement. Mais la faute des Juifs, leur ingratitude et leur incrédulité est de tout point inexcusable, qui, ayant vu et éprouvé tant de fois l'innocence et la sainteté et la divine vertu du Seigneur Jésus, ne cessèrent pas, après tout cela, de se figurer qu'il était coupable et qu'il avait mérité les tourments et l'infamie que lui firent souffrir leur gouverneur. Le prophète corrige donc l'extravagance de leur opinion et nous montre la vraie cause d'un accident si étrange. Il n'en est pas, dit-il, comme nous pensons. Ce n'est ni son péché, ni la haine de Dieu, son Père, qui lui fait souffrir ses horreurs. Comme il est le Saint des Saints, l'innocence et la bonté même, aussi est-il le bien-aimé de Dieu, son amour et sa délection. Il n'a point fait d'outrage, dit-il, et il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Nous en sommes témoins et n'avons jamais vu en toute sa vie la moindre tache d'injustice ou de malignité. Toutes ses actions et ses paroles ont été pures et saintes, et quelque exacte recherche qu'en ait faite la calomnie de ses iniques juges, elle n'a point trouvé à y mordre. Jusque-là, que la même bouche qui l'a condamné à mourir a reconnu hautement qu'il ne méritait pas la mort. Elle a été contrainte de prononcer innocent celui qu'elle a fait traiter comme coupable. Mais il a souffert pour nos péchés et non pour les siens. Sa croix a été la peine, non de ses crimes, mais des nôtres. Son sang a été répandu pour nous laver nos taches, et son âme abandonnée à l'angoisse et au tourment pour expier nos iniquités. Et afin de nous montrer le besoin que nous avions de cette satisfaction pour nous rendre Dieu propice et pour le faire consentir à notre paix et à notre bonheur, le prophète nous représente ici en passant le misérable état où nous étions naturellement. « Nous avons tous été errants comme brebis, dit-il. Nous nous sommes détournés, un chacun en son propre chemin. » En disant que nous avons tous été errants, il enveloppe tout le genre humain, juif et gentil, grand et petit, savant et ignorant, dans ce malheur, sans en excepter un seul homme, et dit que depuis que nous avons abandonné Dieu et violé son alliance, nous sommes désormais dans un si misérable état que nous ne pouvons éviter de nous perdre et de tomber entre les griffes du diable, le lion infernal, comme des pauvres brebis égarées dans un désert, qui, après nous être inutilement agités çà et là, deviennent enfin la proie et la pâture des loups. Nos erreurs sont à la vérité très différentes, mais la fin et l'issue en est de même. l'un prend une route et l'autre en choisit une autre, selon les diverses humeurs et caprices des hommes. Il n'y a rien de si bigarré et de si divers que leur voix, mais elles s'accordent toutes en ce point qu'il n'y en a aucune droite. Ce sont autant d'égarements, différents à la vérité, mais aboutissant tous enfin dans une même peine et se rendant à un même abîme, à savoir la perdition éternelle. Voilà, fidèle, quelle est naturellement la condition de tous les hommes. Le péché qui les a tous infectés les assujettit à la malédiction de Dieu, en les engageant de plus en plus dans l'offense et dans le malheur. Les éloigne tellement de leur vraie félicité qu'il n'est pas possible que jamais ils y parviennent d'eux-mêmes. Il est vrai que Dieu est bon et qu'il ne veut pas leur perdition, mais aussi est-il vrai qu'il est juste et que sa propre droiture ne lui permet pas ni de faire du bien au coupable, ni de laisser le péché sans le punir. Et c'est ici où s'est pleinement découverte la merveille de sa miséricorde. Car il a trouvé dans les trésors de son incompréhensible sagesse le moyen de punir le péché sans faire périr le pécheur, en transférant sur l'innocente victime qu'il nous a donnée les peines que nous méritions, afin que sa justice pleinement satisfaite et désintéressée lui laissa la liberté de sauver les pauvres pécheurs croyants et repentants. Cette victime sur laquelle il a déchargé les vengeances que sa justice requérait pour nos péchés est le Christ qui nous a envoyés, doué très parfaitement de toutes les qualités nécessaires pour acquitter une si grande dette. Et sa passion si douloureuse et si ignominieuse, qui a tant scandalisé les hommes, est précisément la peine due à nos crimes, qu'il a payé pour nous en délivrer. Tu t'abuses, ô Juif incrédule, ce n'est pas pour ses péchés, mais pour les tiens que notre Jésus est mort en la croix. C'est pour nous et en notre nom qu'il a été puni. Quant à lui, il ne devait rien à la justice divine, n'ayant jamais violé ses lois. Mais il a été si bon que de se mettre en notre place et d'acquitter pour nous tout ce que nous lui devions, jusqu'aux derniers quatrains. C'est le mystère qu'Ésaïe explique en ce chapitre, avec des paroles si belles et si luisantes qu'à peine lisons-nous rien de plus clair dans saint Paul même. Et parce que le sujet est grand et important, il ne se contente pas de nous le dire une fois. Il le répète. Il le représente plusieurs fois en diverses manières, toutes excellentes et magnifiques. Il dit premièrement que le Christ dont il a parlé a porté nos langueurs et qu'il a pris sur lui nos douleurs, c'est-à-dire nos péchés, en tant qu'il en a volontairement souffert la peine. Car le péché est vraiment la langueur et la douleur des hommes, c'est leur maladie mortelle. Et le mot que nous avons traduit « porter » signifie proprement « ôter une chose en la levant ». Aussi est-ce ainsi que le Christ a ôté nos péchés en les levant sur la croix, où il les a tous expiés. Et comme dit saint Pierre, faisant à mon avis allusion à ce passage d'Ésaïe, « il les a portés ou enlevés en son corps sur le bois ». Et parce que la guérison miraculeuse qu'il donnait à divers malades durant les jours de sa chair était la figure de la grâce qu'il fait à nos âmes en les guérissant de leurs péchés. De là vient que saint Matthieu n'a point faim de rapporter ce passage à la première, bien qu'à proprement parler, il appartienne à la seconde. Et bien qu'il y ait pour le reste un évident rapport entre ces deux portes guérison, toutefois, elles diffèrent en ce point que le Christ, pour nous délivrer de nos péchés, les a portés lui-même sur soi. au lieu qu'il ne souffrait pas les maladies de ceux qu'il guérissait. Je reviens à notre prophète, qui ajoute encore en même temps que le Christ a été blessé pour nos forfaits et meurtri pour nos iniquités. Où vous voyez qu'il nous enseigne clairement que nos péchés sont la vraie cause de toutes les plaies qu'il a reçues dans cette épreuve et l'occasion qui lui a fait répandre tout son sang et essuyer tant d'opprobre. Et c'est encore cela même qui signifie un peu après, où il dit que la plaie lui est advenue pour le forfait de son peuple. Mais il nous découvre ensuite les faits et les fruits de ses admirables souffrances. L'amant, dit-il, qui nous apporte la paix est sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons guérison. Notre paix lui a coûté la vie. Toute cette horrible passion à laquelle il s'est soumis est le prix de notre bonheur. Car nous étions ennemis de Dieu et l'issue de cette guerre funeste ne pouvait être autre que notre perdition. Christ a apaisé le Père en payant l'amende pour nous et nous a réconciliés avec lui et par le bénéfice de cet accord, il nous a acquis la communication de tous les biens de Dieu, c'est-à-dire de sa sainteté, de sa bénédiction, de sa vie et de son immortalité, bien que l'Écriture comprend souvent sous le nom de paix. Il en est de même de cette guérison que la meurtrissure du Seigneur nous a acquise. C'est la rémission, premièrement, de nos péchés, et ensuite notre sanctification, et toutes les grâces dont Dieu nous couronne en ce siècle et en l'autre. Cette noble et heureuse santé a été achetée au prix du sang et des plaies de notre Jésus. Enfin, le prophète nous découvre que Dieu est le souverain auteur de cette œuvre si admirable quand il dit que le Seigneur a fait venir sur son Christ l'iniquité de nous tous. À quoi il faut aussi ajouter, pour la fin, ce qu'il dit en même sens au commencement du verset 10e, que le Seigneur, l'ayant voulu meurtrir, l'a mis en langueur. Car c'est Dieu qui l'a établi notre médiateur et notre rançon, et qui l'a envoyé en temps, et lui a donné un corps, et qui enfin a exigé de lui la dette dont il avait répondu, et a déchargé sur lui les peines que méritaient les pécheurs, au nom desquels il comparaissait devant le tribunal de sa justice divine. Ainsi avons-nous expliqué ce qu'Ésaïe prédit ici du Messie, et qui se trouve ponctuellement accompli par notre Seigneur Jésus en la plénitude des temps. Tout paraît, d'un côté, l'erreur et l'aveuglement des Juifs, qui, au lieu de ce Christ qui leur était promis, infirme et méprisable selon la chair, blessé et meurtri, et mourant dans l'ignominie pour expier les péchés des hommes, en attendent un grand et puissant, en force et en richesse de ce monde, subjuguant les nations à coups d'épée, victorieux et triomphant dans l'univers, un conquérant terrestre, et non un rédempteur spirituel. Et, de l'autre part, la vérité de la vocation de Jésus, exhibée en son temps, tout tel qu'il avait été représenté par les types et prédit par les oracles des anciennes Écritures. Ici, l'impiété et l'incrédulité demeurent nécessairement confuses, car que peut-elle citer contre la lumière d'une démonstration si convaincante? Ésaïe prédit 700 ou 800 ans avant la venue de Jésus que le Christ sortira d'un pauvre lieu, qu'il paraîtra infirme et dénué de toutes les qualités apparentes selon la chair, qu'il sera méprisé et rejeté des siens, qu'il sera moqué, battu, maltraité, meurtri, mené à la tuerie, bien que très innocent et très juste, qui souffrira la mort avec une patience et humilité sans pareil, qui sera enterré dans le sépulcre d'un homme riche et que ses plaies et sa mort seront la paix et la santé des hommes égarés en diverses sortes d'erreurs. Jésus paraissant au temps ordonné, toutes ces marques se voient ponctuellement en lui, sans qu'il lui en manque une seule. Ses plus grands ennemis ne le peuvent nier et ne le nient pas en effet. Certainement, il faut donc que les athées et les juifs, les profanes et les démons même, confessent que notre Jésus est vraiment le Christ Dieu, prédit et promis pour le salut du monde par les prophètes d'Israël. C'est Dieu sans doute qui a inspiré cette prédiction à Ésaïe. Qui eût pu, autre qu'un Dieu, prévoir et prédire si clairement et si assurément des choses si éloignées qui ne sont arrivées que 7 ou 8 siècles plus tard. C'est encore ce même Dieu qui a envoyé Jésus des cieux et qui est l'auteur de toute l'œuvre de sa méditation. Qu'à qui eût pu, autre que ce même Dieu tout sage et tout puissant, conduire et fléchir tellement les choses que l'on y voit les événements répondre exactement à ces oracles et les vérités à ces types et à ces modèles. Recevons donc, frères bien-aimés, et embrassons avec une ardente et respectueuse foi ce grand prince de notre salut. Que la bassesse de sa naissance, que la faiblesse et la pauvreté de sa vie, que l'horreur de sa croix et l'ignominie de sa mort ne nous offensent point. Ces tristes marques, bien loin de nous scandaliser, doivent désormais nous fortifier en sa foi, puisqu'elles contiennent une invincible preuve de sa vocation divine. S'il n'était tel, il ne serait pas le Christ de Dieu, parce qu'il n'aurait pas la forme que lui donnent ses oracles. Puisqu'il est tel, et que nul autre ne l'a jamais été, ni ne le sera, c'est une preuve évidente qu'il est vraiment le Christ de Dieu. Que si son anéantissement donne de l'étonnement, il n'en donne qu'à ceux qui n'en savent pas les causes et les raisons. Ce prophète, pour ne point parler de l'écriture des apôtres, nous en a si fidèlement et si clairement instruit que désormais cette croix du Seigneur, au lieu du scandale qu'en prennent les ignorants, nous en est en édification et en consolation. C'est la matière de notre joie, le sujet et fondement de toutes nos espérances. Car puisque la meurtrissure de ce divin crucifié est notre guérison, puisque ses plaies sont notre santé, son amende notre paix, son opprobre notre gloire, sa malédiction notre bénédiction, et sa mort notre vie et notre immortalité, avec quel amour et avec quelle dévotion devons-nous recevoir un mystère si précieux qui, sous cette faible et triste apparence, contient toutes les causes de notre bonheur et n'est autre chose au fond que la grande et admirable puissance de Dieu en salut à tout croyant. Ce même prophète nous a enseigné et notre conscience nous a assez convaincu que nous sommes de pauvres brebis errantes dans les voies de la mort, où nous nous sommes détournés chacun selon les folles inclinations et les passions aveugles de notre chair. Le jugement de Dieu nous menace, et il n'y a point de moyen ni de tromper sa connaissance, ni de résister à sa puissance. Le seul remède à ces grands maux qui nous pressent est en la croix du Seigneur Jésus. C'est là que nous trouverons l'expiation parfaite de tous nos crimes, la grâce de Dieu, la paix de sa conscience, la joie de l'espérance, la lumière de la sagesse, le droit et assuré chemin du ciel et en un mot, comme dit le Seigneur même, la voie, la vérité et la vie. Venez donc, pécheurs, avec assurance. Le Fils de Dieu s'est chargé de vos péchés et a porté votre malédiction sur le bois. Il a effacé vos crimes en son sang, et ses clous et ses épines ont déchiré l'obligation qui vous était contraire. Sa mort est votre satisfaction et sa passion votre justice. jouissez hardiment de son bénéfice et, vous prosternant humblement à ses pieds, recevez avec une foi et un amour entier sa chair et son sang, et le fruit de ses douleurs et le profit de ses plaies, et le salaire de son obéissance qu'il vous offre si libéralement. Viens, vous dit-il, ô pécheur, viens et ne dédaigne point le sang et les plaies et la mort de celui qui t'a tant aimé. C'est pour toi que j'ai souffert tout cet opprobre. Ce sont tes péchés qui m'ont mis en état, qui m'ont mis en cet état qui te fait horreur. Je l'ai voulu ainsi pour te ramener en la maison de mon Père, pour te présenter au trône de la grâce et te rendre capable d'entrer en son royaume et en la communication de sa vie. Crois-moi et reçois ce que je te présente et tu vivras éternellement. C'est là, cher frère, le langage que nous tient ce doux et miséricordieux Seigneur, de dessus cette croix où nous l'avons vu mourir aujourd'hui pour nous. C'est ce qu'il nous dit encore à cette table mystique où il nous a conviés pour dimanche prochain. Obéissons à sa sainte voix, nettoyons nos âmes et nos corps avec une vive repentance. Renonçons au monde et à la chair pour suivre désormais le prince de la vraie vie. Ayons continuellement devant les yeux ce divin modèle d'humilité, de charité, d'obéissance, de patience, de constance et de sainteté qui nous a laissé en sa croix. Rendons à son exemple une constante et invariable obéissance à Dieu notre Père jusqu'à la mort, voire jusqu'à la croix, jusqu'aux afflictions et aux épreuves les plus rudes s'il nous y appelle. Aimons nos frères, les membres de ce souverain Seigneur, comme il nous a aimés. Pardonnons-leur s'ils nous ont offensés, comme il est mort pour nous acquérir le pardon de nos offenses. Faisons-leur part de nos biens, comme il nous a communiqué les siens. Mortifions notre vieil homme et clouons-le à la croix du Seigneur et enterrons-le dans son sépulcre pour ressusciter avec lui homme nouveau, vêtu de la lumière de sa sainteté, pour monter aussi un jour en son ciel bienheureux et y vivre et y régner éternellement en sa communion. Ainsi soit-il, et à lui avec le Père et le Saint-Esprit, vrai Dieu béni à jamais, soit honneur, louange et gloire au siècle des siècles. Amen.